Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen.
Allô? Oui. Vous m'entendez? J'imagine un jeune couple marié depuis 2 ans à peu près, et l'anniversaire de leur mariage s'approche, et bien sûr, elle se demande ce qu'ils allaient faire, et puis tout d'un coup, il est appelé, lui, à aller quelque part ailleurs pour s'occuper des affaires de son travail, et le jour arrive, l'anniversaire arrive. Donc, elle ne s'éloigne pas très loin de la maison parce qu'elle veut être près de son ordinateur. Et elle attend, et elle a son téléphone portable à côté d'elle. Et elle attend, et elle attend, et elle attend, et elle attend. Elle attend. Puis finalement, le soir vient, rien, de rien, de rien. Et puis la petite, elle va au lit avec des larmes. Lui, il revient à la maison. Oh là 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 là. Excuse-moi, j'ai oublié, n'est-ce pas? Je n'ai pas fait, je ne t'ai pas appelé. Tu m'excuses, n'est-ce pas? Bien sûr, il n'avait pas l'intention de l'oublier, mais il a fait quand même. Et elle le pardonne, mais je vous laisse l'histoire là. Je vous laisse l'histoire là. J'ai dit tout ceci parce que dans le verset, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? C'est le mot négliger que je veux ressortir. Je vais traiter le verset tout à l'heure, mais ça c'est mon texte. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Parce qu'il y a les choses qu'on néglige, et je vais en prendre quelques-unes ce matin. La première, c'est de ne pas faire attention à nos conversations après la réunion. On néglige de profiter de ce temps magnifique après la réunion, même après le culte, après le mercredi soir, tout cela. Vous savez que ces réunions, quelquefois, durent aussi longtemps que la réunion même. Hein? C'est-à-dire que voilà, on est ensemble et on parle les uns avec les autres. Oui, mais de quoi? Vous savez que c'est le moment idéal d'être avec des frères et des sœurs et de pouvoir parler des choses qui nous touchent de près, de partager nos bénédictions, un verset biblique, après le message, de dire voilà ce qui m'a touché pendant le message. Oh, il y a tant de choses. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien voilà, on parle de la politique, du beau temps, on parle de tout sauf. Et je suis aussi coupable, hein. Je ne veux pas dire que, n'est-ce pas, j'étais le modèle à cela, mais j'aimerais devenir le modèle pour cela, parce que c'est des moments précieux après. Parce que toute la semaine, on est avec les gens qui nous renvoient, qui sont durs, qui sont froids, et ici, c'est le moment où on peut pour une fois être avec des gens qui nous comprennent, qui ont les mêmes tentations, les mêmes épreuves, les mêmes tout, et alors, il ne faut pas parler, Imaginez si vous allez là avec une équipe de foot et c'est le mi-temps. Hein? De quoi parle-t-il, je me demande. Je vous laisse deviner. Hein? Vous allez dans une partie politique quelque part. De quoi parle-t-il? Mais ils sont enthousiasmés pour le parti, ils veulent qu'ils gagnent dans les prochaines élections, c'est tout ce que... Mais nous devons avoir le même zèle pour le Seigneur, de profiter de cela, de vraiment faire valoir ces moments après le culte, après la réunion, de vraiment... Vous savez quoi? C'est intéressant de poser la question à quelqu'un qui vient, qui a fait d'autres églises, à droite et à gauche. Alors, on leur demande, mais alors, ça, oh là là, je suis allé là. Et ce que je vous raconte maintenant, ce n'est pas, je ne l'ai pas inventé. Hein, c'est combien de... Oh, qui sont froids là-bas. Vous savez, je suis entré, personne ne m'a salué. J'étais là pendant la réunion, je me lève, et puis les gens passent devant moi comme si j'étais en poteau, et rien de rien. Froid comme la glace. Et puis, oh là là, non, dans cette église-là, c'est, oh là là, c'est la pagaille. Oh là là là, c'est, n'est-ce pas, c'est... Jamais disent le pasteur ceci ou le pasteur cela. L'église est jugée par vous. Vous êtes l'église. Et les gens qui viennent vous observent. Beaucoup plus que vous ne le pensez. Ils écoutent des bribes de conversation, ils voient votre attitude, votre chaleur. Oh, quand les gens disent, je suis venu chez vous, oh là là, quelle réception, j'ai dit, oh là là, ça me fait plaisir. Ça. Quand j'apprends que vous étiez chaleureux, que vous avez accueilli les gens avec amour et tout cela, j'aimerais vous dire une chose. La quasi-totalité des gens qui viennent, ne viennent pas pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Ils cherchent quelque chose de réel. Ils cherchent là où ils peuvent être chez eux, où ils peuvent être compris, d'avoir une chaleur humaine. Vous savez combien de personnes ça leur manque, cette chaleur humaine. Ils veulent être accueillis, ils veulent avoir un amour quelconque qui sort du cœur des gens. Et quand ils viennent, c'est surtout ça qu'ils cherchent. Et s'ils sont accueillis, s'ils voient l'amour de Christ en vous, si vos paroles les encouragent, ben ils reviennent. Ils reviennent. Le message, au début, c'est secondaire pour eux. C'est secondaire. Oh, ils aiment quand le message est bon, naturellement, mais ce n'est pas tellement cela. C'est vous-même. C'est vous-même qui cherchez. C'est votre amour. C'est votre affection, c'est votre façon. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger. Et garder cela de plus en plus. Deuxième chose qu'on néglige souvent, et vous serez étonnés de cela, c'est la dîme. La grande bénédiction de la dîme. Vous n'avez pas d'idée la bénédiction qui accompagne la dîme. Qu'est-ce que c'est la dîme? C'est 10% de ce qu'on gagne. Hein? Alors, on donne cela au Seigneur et la bénédiction est la vôtre. Je n'hésite jamais de parler de la dîme. Il y a des pasteurs, ils n'osent pas parce que c'est l'argent, n'est-ce pas? Il ne faut pas parler de l'argent. Hein? Mais la Bible en parle. Hein? Dieu en parle. Ça fait partie de notre vie, notre argent, hein, si vous n'avez pas. Et je suis content que vous donnez bien quand même. Hein. Je ne suis pas en train de vous taper dessus. Hein, non. Je prêche la dîme, je ne prêche pas contre vous. Je prêche la dîme seulement. Hein, voilà. Parce qu'il y a beaucoup ici qui donnent la dîme et ça me réjouit le cœur. Et ça c'est merveilleux. Vous savez que la bénédiction, je l'ai trouvée tout jeune. Je venais juste d'accepter le Seigneur dans une église froide comme la glace. Mais j'ai accepté le Seigneur parce que celui qui s'occupait des jeunes, la classe de jeunes, il était chaleureux. Alors c'est tout ce qu'il me fallait, quelqu'un de chaleureux, j'étais avec lui, il m'a parlé du Seigneur, et je suis resté là, et j'ai accepté le Seigneur. Alors je suis allé donc au culte, pas tout de suite, mais quelques dimanches après, je suis allé au culte. Parce que ça, c'était la classe d'enfants avant. Alors, j'ai remarqué que les gens à côté de moi, ils avaient une enveloppe. Ils avaient une boîte d'enveloppe que l'Église donnait, une boîte d'enveloppe, et il y avait des enveloppes marquées pour le dimanche en question. Alors, ils sortent cette enveloppe, ils mettent leur argent dedans, et puis voilà, dans le... Oh là là, je dis, il me faut ça. Et puis j'ai appris, n'est-ce pas, la dîme. Alors, il y avait les docteurs, les avocats, les grandes personnes comme ça, et je ne sais pas ce qu'ils donnaient, mais certainement plus que moi. Je gagnais 10 dollars, j'étais un garçon de 14 ans, je ne gagnais pas beaucoup. Hein. Bien sûr, 10 dollars à cette époque, c'est plus que maintenant. Il faut, voilà. Mais quand même, ce n'était pas une fortune. Alors, 10 dollars, et j'ai pris un, et je l'ai mis dans l'enveloppe, comme tout le monde, scellé ça, et quand ça passait, ah, j'ai mis ça, une joie dans mon cœur. Oh, qu'est-ce que j'avais, je donnais, j'investis dans l'éternité. J'ai investi dans l'éternité, c'est ça. Beaucoup de gens pensent que la dîme, ça vient de la loi de Moïse. Non, ça a été un principe que Dieu a donné à l'humanité dès le début, avec Adam et Ève. Un septième de notre temps, un jour par semaine, lui appartient. Et le dixième de notre argent lui appartient. On ne donne pas de l'argent à Dieu si on donne la dîme. Ça lui appartient déjà. On lui donne ce qui est à lui, quoi. On donne après la dîme. Ça s'appelle les offrandes. On fait les offrandes après. Mais la dîme, c'est que la Bible dit qu'on faut... Vous savez qu'en Malachie, le dernier livre de la Bible, Dieu est en train de dire ce qui n'allait pas. Il a dit, pourquoi me trompez-vous? Troisième chapitre de Malachie. Pourquoi me trompez-vous? Mais en quoi nous te trompons? Par vos dîmes et vos offrandes. C'est-à-dire, ils ont cessé de les donner. Alors, quand on cesse de les donner, on vole Dieu. Dans la traduction anglaise, c'est « pourquoi vous me volez ?» C'est-à-dire que si on ne lui donne pas ce qui lui appartient, on le vole. Et naturellement, la bénédiction n'est pas là. Il y a beaucoup de gens qui me disent « mais voilà, moi je ne peux pas, j'ai pas beaucoup et... » À la fin du mois, il ne me reste rien. J'aimerais donner, m'a dit, mais à la fin du mois, il ne me reste rien. Je vais vous donner un secret. Donnez-le au début du mois. Et puis vous allez compter sur le Seigneur de faire le reste. J'aimerais vous dire une chose, à quoi peut-être vous n'avez jamais pensé. Si vous obéissez à Dieu, vous croyez que Dieu sera fâché? Et il va vous punir parce que vous avez obéi. Vous donnez la dîme au début du mois et Dieu dit, voilà, il va voir maintenant. Hein. Il n'aura rien pour finir le mois. Il va payer ça. Hein. Nous avons une conception de Dieu des fois qui est incroyable. Quand on obéit à Dieu, mais il nous bénit au contraire. Quand on lui donne la dîme, au début du mois, mais croyez-moi, il y aura l'argent jusqu'à la fin, mais croyez-moi. D'ailleurs, il a dit, mettez-moi à l'épreuve, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne verse pas sur vous des bénédictions en abondance. Il n'y a pas simplement des bénédictions matérielles, mais des bénédictions spirituelles. J'ai connu un jeune homme, je l'ai connu moi-même personnellement. Il a dit, je ne sais pas, je suis allé à l'église un jour, et j'ai appris que des gens donnaient la dîme. Il n'était pas sauvé. Il a dit, moi, je vais donner ma dîme. Il a donné sa dîme avant d'être sauvé. D'ailleurs, tout le monde doit le donner, parce que ce n'est pas simplement pour les chrétiens, c'est pour toute la race humaine de donner la dîme, ça lui appartient. Alors, il a commencé à donner la dîme, et parce qu'il était obéissant à cela, Dieu l'a sauvé. Il a la vie éternelle maintenant, parce qu'il était prêt à faire cela. La dîme, pour les enfants, je leur explique. Je prends 10 pièces, en euros chacune, hein, 10, et j'enlève une. Et je dis, voilà, qu'est-ce que vous croyez ira le plus loin? Les 9 qui restent avec la bénédiction ou les 10 sans la bénédiction? Oh, les enfants sont très intelligents. Ils disent, les 9 avec la bénédiction. Voilà, c'est ça. Alors, ils ont compris. Et alors, ils commencent à le faire et Dieu les bénit. Dieu ne m'a jamais laissé tomber, la preuve. Hein. Je suis arrivé jusque-là, hein, tout en donnant la dîme. Oh, il faut que nous connaissions Dieu mieux que ça. Il faut qu'il soit très près de notre cœur. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi je donne ma dîme là où Dieu me met à cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, si je vois quelqu'un, je le donne à lui, je donne une partie là. C'est pas ça de donner la dîme. La dîme, c'est pour la maison de Dieu. Les offrandes, c'est après. Si vous voulez donner à quelqu'un pour une cause ou tout cela, mais la dîme, c'est pour l'Église. Mais c'est la logique même. Pourquoi vous me dites? Mais si tout le monde donnait à droite et à gauche, n'importe où, qui paierait le loyer, l'électricité, le pasteur? Il va de soi que la dîme, c'est pour la maison de Dieu. Et puis les offrandes, c'est à droite et à gauche, là où Dieu nous met à cœur. Mais on commence par la maison de Dieu et Dieu, de son côté, nous bénit. Je crois que je vais laisser la dîme pour aller plus loin. Il y a un autre sujet que je veux entamer maintenant, c'est celui de ne pas négliger notre relation avec Dieu. C'est d'être avec lui. Quand vous priez, par exemple, est-ce que vous lui dites, Seigneur, je t'aime? Vous dites oui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous l'aimez vraiment? C'est ça. C'est d'avoir un moment intime avec Dieu. Oh, c'est très difficile aujourd'hui. Nos jours sont bousculés avec multitude de choses à faire. Vous savez, on vit à 150 heures aujourd'hui, hein? 150 heures, quand on pense autrefois, se lever doucement, toute la vie était en ralentir, on n'avait pas un métro à rattraper, un train à rattraper, un avion à rattraper, on n'avait pas tout cela. C'était calme, c'était beaucoup. Mais maintenant, trouver du moment pour être seul avec Dieu, c'est difficile de trouver un moment seul avec Dieu. C'est tellement difficile que c'est impossible. Si vous attendez trouver un moment seul avec Dieu, vous n'allez pas le trouver, je vais vous le dire. Hein. Et quelle est la solution? Prendre le temps. Avoir un moment dans la journée où vous êtes seul, mais vous dites, mais je suis toujours pris. Normalement, à 4 heures le matin, on est libre. Je dis ça en riant, mais vous savez, il y a des moments où on peut trouver un moment. Et on dit, Seigneur, cette heure-là, ça t'appartient parce que je veux te connaître. Je veux vraiment être en communion avec. Comment voulez-vous connaître sa volonté si vous ne le connaissez pas intimement? Si vous ne passez pas du temps avec lui, avec sa parole, en méditant, en parlant avec lui. Et puis, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce que vous avez jamais entendu la voix du Seigneur qui vous parle? D'avoir... Enoch marcha avec Dieu. Il ne fut plus, car Dieu le prit. Oh, marcher avec Dieu. Ça veut dire d'avoir le cœur comme une vitrine. Seigneur, regarde. D'être net devant Dieu. On ne peut pas faire une communion. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus, dit la parole de Dieu. Il faut que notre vie soit nette. Vous dites, est-ce que je dois être parfait, parfait? Non, personne n'est parfait, parfait. Mais on peut être en communion avec Dieu. Il y a un verset qui dit « prier sans cesse ». Mais comment vous allez prier sans cesse si vous êtes en train de penser des mauvaises pensées? Vous ne pouvez pas, les deux ne marchent pas ensemble. Si vous priez, vous n'avez pas des mauvaises pensées. Si vous êtes en communion avec lui, mais c'est la vie. Ça, c'est la vie. La vie chrétienne, sans cette communion intime avec Dieu, c'est presque une religion, mes chers amis. C'est presque une religion. On dit, oh, la religion, c'est oh là là, n'est-ce pas? Oui, mais si nous n'avons que le culte le matin, peut-être notre réunion dans la semaine, mais c'est pas grand-chose, ça. Il nous faut toute la journée être avec Dieu. Que notre vie soit connue comme une vie donnée à Dieu. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Il y a un autre où on néglige aussi, c'est de prendre position pour Christ. On néglige cela. Il y a cette... On raconte cela. Je ne connaissais pas les deux hommes, mais il paraît que deux hommes travaillaient ensemble dans une usine. Ils étaient là pendant 10 ans, à côté l'un de l'autre. Quelque chose est arrivé, je ne me rappelle pas quoi. Et l'un a été obligé, pour ainsi dire, de dire à l'autre, vous savez, excuse-moi, hein, on se connaît depuis 10 ans, mais je suis sauvé, je t'ai déjà dit, mais je suis sauvé, Christ m'a sauvé. L'autre le regarde, il a dit, c'est vrai? Il a dit, oui, mais moi aussi. 10 ans, ni l'un ni l'autre ne le savaient pas. Vous savez, les personnes les plus proches de vous doivent être les personnes les plus susceptibles d'accepter ou de refuser, hein. Mais c'est eux qu'on doit toucher en premier lieu. Au travail, à l'école, ce qu'on fréquente, ce qu'on touche avec les coudes, hein, tout le temps, ils doivent savoir qu'on est sauvé, qu'on est heureux. On doit les inviter à venir. La première chose pour prendre position, c'est le baptême, naturellement. Là, c'est facile, parce que là, on est devant les amis, devant les chrétiens. Et quand on prend le baptême et on dit « je suis sauvé », ça donne quelque chose, ça donne un certain courage. À partir de ce moment, on n'a plus autant peur de dire « je suis sauvé ». Christ m'a donné la vie éternelle, ou quelque chose comme ça. Oh, vous n'avez pas besoin de prêcher un message. Hein. Souvent, les gens pensent qu'il faut qu'ils m'imitent, qu'il faut qu'ils prêchent tout un message. Non, les gens ne veulent pas un message prêché. Ce qu'ils cherchent, c'est un cœur sincère et quelques mots pour leur indiquer que vous avez trouvé ce qu'ils cherchent. Vous avez trouvé le repos du cœur, vous avez trouvé la paix du cœur. C'est ça. Et alors, à ce moment, le Saint-Esprit commence à leur parler. C'est le Saint-Esprit qui doit faire l'œuvre. Nous essayons trop de faire l'œuvre du Saint-Esprit, moi encore le premier à offenser cela. C'est facile de prêcher, mais c'est un autre de le vivre. Je commence à en avoir assez d'avoir mes convertis. Hein. D'emmener quelqu'un à Christ, soi-disant, et je trouve qu'il n'est pas du tout sauvé, donc c'est mon converti. Hein. Alors, mes convertis, comme Moody a rencontré cet ivrogne, il est venu, il a dit, Moody, oui, je suis l'un de tes convertis. Moody a dit, ça se voit. Je veux des convertis de Dieu. Je veux que ça soit Dieu qui convainque du péché et que ça soit Dieu qui œuvre dans le cœur des gens. J'aime quand les gens reviennent en disant, voilà, qu'est-ce que je suis heureux d'être sauvé. C'est ça. Et ça, ce n'est que l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut pas l'imiter, on ne peut pas le remplacer, c'est Dieu. Oui, je passe maintenant à mon texte. Le texte dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Vous savez, j'ai rencontré pas mal de gens qui haïssent Dieu de tout leur cœur. J'ai vu des hommes qui disent, voilà, si je pouvais le prendre, voilà ce que je ferais. J'ai vu des gens comme ça. Les gens qui m'ont dit, je ne veux jamais vivre avec Dieu, je ne veux pas de lui, je le hais de tout mon cœur. Je l'ai entendu, ça, de mes oreilles. Hein. Et Dieu ne va jamais les forcer de vivre avec lui pour l'éternité. Ils peuvent aller avec Satan à l'enfer. Et là, ils passeront l'éternité en enfer. Je ne sais pas si vous le savez, mais la nature pécheresse avec laquelle nous sommes nés est une nature en rébellion contre Dieu. On est rebelle d'office. Quand, pour être sauvé, il faut que cette rébellion cesse et qu'on capitule. On dit, Seigneur, je ne veux plus être rebelle, je veux être à toi. Je veux que tu me sauves. C'est ça. Mais vous savez que même après être sauvé, on peut être en rébellion encore avec Dieu. Je ne veux pas faire sa volonté. Je ferai ça, 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 mais pas ça. Hein. Ça, je ne ferai pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la rébellion, ça. On est heureux que si on est entier à Christ, pas à moitié ou encore, tout entier, c'est à ce moment que la puissance de Dieu vient dans notre cœur. Oui, nous devons à ce moment comprendre que les gens décident eux-mêmes où ils vont passer l'éternité. Dieu n'envoie personne en enfer. Si l'homme dit « je ne veux pas aller au ciel », mais Dieu lui permet d'aller en enfer. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la quasi-totalité des gens ne sont pas comme ça. J'ai vu beaucoup de gens qui me disent ceci. Pour le moment, oui, je ne suis pas contre Dieu, non, au contraire, je t'ai élevé, je connais Dieu, n'est-ce pas, un peu comme ça. J'étais élevé un peu ça donc, mais actuellement, je suis trop pris. Hein. Mais franchement, j'ai trop de choses pour m'occuper de Dieu actuellement. Mais quand je prendrai ma retraite, alors là, je me consacrerai davantage à Dieu. Mais Dieu dit... Comment échapperons-nous en négligeant? Cet homme-là néglige son salut. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Mais qu'est-ce que c'est ce grand salut? Pourquoi il dit si grand salut? C'est grand parce que son fils est mort sur la croix, on a craché sur son visage, on a arraché sa barbe, on a giflé, on a cloué sur une croix. Il a donné tout cela. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un grand salut que Dieu a pris le temps d'écrire tout ce livre pour nous dire comment être sauvés. Un si grand salut qu'il envoie des gens comme moi, comme d'autres, pour parler, pour plaider à la place de Dieu pour qu'il soit sauvé. Et si la personne dit non, pas maintenant, et néglige son salut, comment échappera-t-il? La réponse, il n'échappera pas. Il n'échappera pas. Il sera comme celui qui a levé le poing. Pareil. Parce que si on néglige le salut, on va en enfer aussi bien que celui qui est contre Dieu. Il ne faut pas négliger le salut. Oui, mais vous dites, oui, je n'ai pas le temps maintenant. Vous savez, personne n'a un bail sur la vie. Dieu ne donne pas un bail. En disant, voilà, toi, je te donne encore 18 ans, je te donne encore 9 ans, voilà, etc. Non, on ne sait pas. Notre vie se tient à un fil qui peut être coupé à n'importe quel instant. On ne sait jamais quand on va partir. La preuve, regardez cet avion qui s'est écrasé hier. Vous croyez que tout le monde était préparé pour ça? Et que c'était leur désir de mourir là, hier? Je pense à ce garçon-là, vous avez vu ça. Je vous cite les choses que j'ai remarquées ces derniers temps. Ce garçon de 14 ans-là, qui était avec ses camarades en train d'attendre le bus. Et comme des garçons de 14 ans, ils s'amusent et tout ça. Il y en a un qui reculait un peu plus loin dans la rue. Il a été tué sur le coup par quelqu'un qui est passé. Vous croyez que ce garçon a voulu être mort à ce moment-là? On ne sait pas quand on va mourir. Je pense à cet homme-là qui attendait le métro, vous l'avez vu, ça. Et celui derrière qui levait le pied et qui le poussait. Il ne pensait pas mourir à ce moment-là. Il attendait le train, non pas la mort. On ne sait jamais la mort. Comment échapperons-nous en négligeant si grand salut? Aujourd'hui, c'est le moment d'accepter le Seigneur. Vous savez que chaque jour, c'est un trésor. Dieu nous donne la permission de vivre encore un autre jour. Aujourd'hui, on peut être sauvé. Aujourd'hui, on peut consacrer sa vie. Aujourd'hui, on peut commencer à goûter ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Ce que je suggère, c'est qu'on se lève dans un instant. On va chanter. David va venir ici. Et il va vous dire, il va vous faire chanter « Tel que je suis, sans rien à moi ». Et pendant que vous chantiez ça,